Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures de découvertes rieuses pour vous, d'un impitoyable combat pour eux. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture générale, bras de fer journalistique sans pitié, mais néanmoins régis par des lois. Deux rappels importants à nos concurrents, nul n'est censé ignorer les lois, mais nul ne doit oublier que je peux les changer à tout moment, puisque c'est moi ça. Le chef. Alors interdiction de me contredire et surtout interdiction de me poser des questions embarrassantes, compris Eva.
Mais comment ça se passe pour les droits d'auteur alors?
Bah c'est moi qui les touche et toi non. D'autres questions? Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu, j'ai pas d'autres questions pour l'instant.
Alors rassurez-vous chers auditeurs, pour tempérer un peu ce pouvoir que j'ai, que d'aucuns qualifieraient d'autocratique et que je qualifierais pour ma part de management éclairé, on a fait plaisir à Tocqueville. Il y a des contre-pouvoirs, vous chers auditeurs, qui votez pour votre sujet préféré via Twitter et notre invité arbitre. Aujourd'hui, une star du barreau, venue nous présenter un livre d'utilité publique qu'on devrait tous avoir dans notre bibliothèque, La justice pour les nuls. Je ne sais pas d'ailleurs comment je dois prendre le fait qu'il me l'ait envoyé. Bref, c'est un grand avocat qui nous accompagne aujourd'hui. Or, n'oublions jamais qu'avant les avocats, la justice, c'était ça.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Heureusement, les avocats sont là. Bonjour Emmanuel Guérin.
Bonjour Mathieu Noël.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la propriété intellectuelle. On va évidemment revenir aux origines du droit pour mieux le comprendre avec cet ouvrage réédité. Vous me disiez que c'était la 3e édition déjà de La justice pour les nuls. Mais une toute première question d'actu. Depuis vendredi, tout le monde en parle. On va encore en parler cet après-midi. La soirée des Césars, la récompense de Roman Polanski, Adèle Haenel qui quitte la salle. Vous vous déclariez en mai dernier, il y a Polanski et il y a son œuvre. Et qui est Polanski ne devrait pas nous intéresser en tant que spectateur. Si on commence à tout confondre, on peut d'ores et déjà brûler nos cinémathèques et nos bibliothèques. Alors, vous comprenez quand Adèle Haenel quitte la salle ou vous ne comprenez pas?
Ah, je comprends très bien, ça me semble logique et cohérent avec ses positions. Ce que je ne comprends pas, c'est quand Florence Foresti, qui accepte un boulot payé, finit par démissionner au milieu de presque avant la fin de la cérémonie, alors qu'elle sait que Roman Polanski est nommé. Donc si ça lui pose un grave problème d'être payé pour faire ce boulot, elle ne le prend pas. Je pense qu'elle a d'autres moyens de subsistance. Voilà l'attitude qui me semble à dénoncer. L'attitude d'Adèle Haenel, elle est parfaitement normale. Celle de Lambert Wilson qui soutient Roman Polanski aussi. Voilà, on peut partir derrière un camp ou un autre. Mais manger dans un râtelier et puis cracher juste derrière après me semble pas une élégance rare.
Alors Emmanuel Pierre, on se connaît pas, mais ce que j'aime bien avec ce début d'émission, c'est que la plupart des gens sur cette question louvoient un petit peu et vous, c'est très clair. On va parler de ça ainsi que de ce livre extrêmement utile, La justice pour les nuls. Mais d'abord, je vous présente les forces en présence. À ma gauche, un journaliste intrépide qui fait honneur à sa carte de presse. À l'heure où beaucoup de ses confrères tremblent devant le coronavirus et rechignent à partir sur le terrain, son courage est aussi admirable qu'exemplaire. Il l'a encore prouvé hier en conférence de rédaction, en clouant le bec à un jeune reporter qui ne voulait pas partir en Chine.
Mais moi, j'aurais pas peur d'aller en Toscane en vacances en avril. Hein.
Et oui, il est prêt à prendre tous les risques. Je vous présente le chef du service éco. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Je sais pas si je dois vous dire bonjour.
Ben si,
bonjour quand même, bonjour aux auditeurs en tout cas.
Avec et quel bonjour sujet allez-vous poursuivre votre remontada au classement général, Emmanuel?
Vous m'avez commandé un sujet sur les têtes couronnées, à croire que vraiment je dois tellement vous ennuyer avec mes sujets économiques. Donc,
c'est vrai qu'on s'endort.
Mais j'ai essayé pour une fois de coller à la thématique de l'invité, parce que j'ai l'impression que ça marche un peu mieux pour les chroniqueurs qui font un effort de parler. Donc je fais comme vous tout à l'heure, je fais un petit peu de suspense.
Ah, suspense, ouais. Vous ne révélez pas votre sujet.
Non, mais parce que c'est peut-être pas si intéressant que ça.
À ses côtés, Emmanuel Pierrat. Quelqu'un qui pourrait bien avoir un jour besoin d'un bon avocat. En effet, dans ce monde post-MeToo, certains de ses propos à la machine à café, volontiers borderline, pourraient un jour refaire surface.
Je te le montre, mais si t'aimes pas, t'en parles pas.
Ce jour-là, je lui donnerai votre carte. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
On plaisante bien sûr, vous êtes un garçon irréprochable. Et surtout, vous êtes le monsieur cinéma d'Europe 1. Le monsieur cinéma qui doit être tout chose après la fameuse cérémonie des Césars dont on parle à l'instant de vendredi.
Justement, on va y revenir, on va faire un peu les Césars pour les nuls. Comment en est-on arrivé là?
Merci beaucoup Mathieu Charrier, le programme est donné. L'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc un pont du barreau qui nous accompagne cet après-midi. Maître Emmanuel Pierrat, vous publiez une nouvelle édition d'un livre de référence, La justice pour les nuls. Ma première question est simple. La justice, le système judiciaire, n'est-il pas si complexe qu'il est illusoire de penser que des nuls comme moi pourraient un jour y comprendre quelque chose?
D'abord, je suis très content, Mathieu Noël, que vous ayez dit la justice, puis que vous vous rattrapiez juste derrière pour dire l'institution judiciaire. Parce que la justice est un très beau concept, merveilleux, c'est une utopie, mais qui n'existe pas. Ce à quoi nous avons affaire, c'est l'institution judiciaire, le maquis des tribunaux, la réalité des juges, des êtres humains qui nous jugent, et non pas des machines, et non pas un idéal de la mythologie grecque. Donc c'est très compliqué, effectivement, et le but de ce livre, qui est un livre épais, mais qui n'est pas à lire de A à Z, contrairement à ce que d'autres ici dans ce studio ont fait, ont cru devoir faire comme
corvée
pendant le week-end.
On peut picorer,
oui. Évidemment. L'idée, c'est de rendre accessible et intelligible dans cette collection un sujet qui est complexe et auquel on est confronté quotidiennement.
Mais il faut préciser que si vous avez un problème judiciaire, vous aurez toujours besoin d'un avocat. Vous ne vous êtes pas sabordé en écrivant ce livre. Hein. Ça ne suffit pas.
Hein. Mais ce n'est pas uniquement pour un plaidoyer pro bono pour racheter des clients dans les cabinets d'avocats. C'est aussi parce que je crois très sincèrement que chaque cas est individuel, qu'à un moment, il faut parler à un spécialiste, à un être humain. Vous pouvez lire toutes les encyclopédies en ligne sur les médecines. Malgré tout, c'est votre généraliste quand même qui va vous rassurer et vous dire le bon geste et la bonne chose. Néanmoins, j'essaye quand même de rendre transmissible, non pas un virus, mais une matière qui me paraît opaque et difficile. Donc, si on peut se passer de l'avocat en ville, notamment, et lui poser des questions à table quand je dîne chez quelqu'un, et qu'il peut lire mon livre, sincèrement, ça me fait passer un repas plus sympa.
Il vous aide à vous y retrouver dans le Maquis des lois. Son ouvrage, La justice pour les nuls, est disponible chez First Edition. Maître Emmanuel Pierre est notre invité cet après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, plus qu'un journaliste, un devin. Expert cinéma d'Europe 1, vendredi dernier, Mathieu Charrier n'a pas failli à sa réputation. Fort de ce sixième sens qu'on lui connaît, il balayait d'un revers de la main l'hypothèse d'une soirée des Césars gâchée, entre guillemets, par un prix récompensant Roman Polanski.
Après, tu sais, moi, je pense que Polanski va pas avoir grand-chose.
Quelques heures plus tard, Roman Polanski décrochait le César du meilleur réalisateur. L'heure est donc au bilan pour les Césars et pour Mathieu Charrier. Tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. Et aujourd'hui, comprendre la justice sans oublier d'en rire. Vous écoutez L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1, avec aujourd'hui Maître Emmanuel Pierra, venu nous présenter un ouvrage fait pour nous, La justice pour les nuls. C'est le principe qui sous-tend cette collection pour les nuls chez First Edition. C'est vulgarisé pour que même quand on n'a pas un bac plus 5, on puisse suivre. Mais en même temps, c'est parfaitement rigoureux, hein, il faut le dire à nos auditeurs.
C'est toute la force de la collection. J'ai écrit 5 volumes, moi, dans les nuls. La justice pour les nuls est le premier que j'avais fait. C'est la 3e édition. Je pense que ça peut être enseigné dans une fac de droit, découpé par un prof de droit. On n'a rien à y redire. On peut trouver le ton un peu rigolo. Il y a des blagues, c'est un peu de l'humour potache par moment.
Mais à part ce ton-là, le fond...
Pour dédramatiser le sujet, mais le fond est parfaitement sérieux. D'abord, c'est le contraire du petit livre facile, mal écrit ou avec une vulgarisation où on trompe les infos. Il y a à peu près tout. Il est très à jour parce qu'il y a des grandes réformes, notamment en janvier dernier, on a inventé quelque chose qui s'appelle le tribunal judiciaire. Avant, on parlait de tribunal de grande instance, de tribunal d'instance. Tout
c'est
ça
fini,
a disparu.
Ça Ah bon.
Les médias ont découvert, mais quasiment le lendemain de l'ouverture du nouveau tribunal, que tout avait changé. Et c'est les journalistes police-justice passent leur temps à m'appeler en me disant « Comment est-ce qu'il faut que je raconte ça? C'est quoi? C'est où? Ça se passe comment ?» Moi, je dis « Lisez le livre que je vous ai envoyé pour Noël, les gars. Vous l'avez eu gratuitement sous le sapin, faites votre boulot. Lisez, j'explique. »
Alors, prenons un exemple concret. J'aimerais me débarrasser d'un membre de l'équipe. Au hasard, mettons Mathieu Charrier, qui par son talent, son charisme, me fait de l'ombre. Voilà, j'ai contre lui des documents assez accablants, notamment des enregistrements audio où il parle de ses collègues sans tabou.
Une femme bien en chair, un homme très étrange, limite pervers, un nain aussi, qui prend plaisir à manger du jambon blanc toute la journée.
Qu'est-ce que vous plaidez? La diffamation? Qu'est-ce qu'on peut faire contre Mathieu Charrier? Je ne sais pas, mais à mon avis, on peut l'attaquer. Justement, Charrier, profitons du fait qu'on soit encore en bon terme pour évoquer cette 45e soirée des Césars vendredi, salle Playel. Vous y étiez.
Tout à fait.
Comment se fait-il que Roman Polanski soit arrivé en tête des votes?
Déjà, ce qu'on croit comprendre, parce que vous savez que l'Académie ne donne jamais le résultat des votes précis, donne juste le taux de participation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle depuis 2016 au César, vous ne pouvez pas cumuler meilleur réalisateur et meilleur film. Parce que Timbuktu en 2015 avait tout raflé, les gens avaient gueulé, pourquoi c'est pas un film qui rafle tout, c'est pas normal. Et puis de la meilleure réalisation, de meilleur film, ça revient à peu près au même. Donc il y a une règle en 2016, vous ne pouvez pas avoir les deux. Et c'est meilleur film qui prime. On considère que c'est un petit peu plus prestigieux que meilleur réalisateur. Donc si vous avez meilleur réalisateur et meilleur film, on vous donnera meilleur film mais pas meilleur réalisateur. Et ce qui semble se dessiner, au vu de tous les prix qui sont remis avant cette cérémonie, c'est-à-dire le prix des distributeurs, le prix des producteurs, etc., tous ces prix-là étaient revenus à
Ladj Ly
et ses Misérables. Donc, Ce qu'on croit comprendre, c'est qu'en fait, l'Adjili avait tout raflé, même le meilleur premier film, que vous ne pouvez pas non plus cumuler avec
bien
meilleur
sûr,
film.
Ce qui est logique
donc,
quand
meilleur
même.
Premier film est revenu à Papicha. Mais ce qu'on croit comprendre, c'est que dans les votes, l'Adjili avait tout raflé, sauf qu'on ne pouvait pas lui donner et meilleur film et meilleur réalisateur. Donc, on est passé au deuxième, et c'est là que Monsieur Polanski arrive et qui rafle le meilleur réalisateur, et alors qu'on voit ce que ça a donné.
Alors, à l'opposé, Adèle Haenel n'a rien reçu.
C'est ça, moi, je trouve qui est intéressant. C'est qu'il ne faut pas se leurrer. Cette soirée, c'était devenu un duel. C'était Polanski contre Adèle Haenel. Et ce que vous notez, c'est que Polanski, il a eu 3 Césars, dont le meilleur réalisateur.
Et elle, rien.
Elle, rien du tout. Et surtout, le film, La Jeune Fille en Feu, a eu juste un César pour la meilleure photo. Donc, clairement, ça veut dire que les votants de l'Académie ont voulu faire gagner Roman Polanski. Pour moi, vous prenez une position
politique. Mais est-ce qu'il fallait pas le retirer complètement des votes?
Ça s'appelle de la censure, sur quel critère?
Vous pouvez pas... Bien, on peut tout reprocher à Polanski.
Sur le même critère que celui qu'on utilise là, qui est celui de la morale.
Non, parce que...
Justement, pardon, malheureusement, moi j'aimerais beaucoup que certains partis politiques ne puissent pas concourir aux élections municipales. Et pourtant, ils ont le droit de le faire. Mais j'ai le droit de ne pas voter pour eux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. En droit, dans une démocratie, avec un vote intelligent et citoyen.
Bien sûr, mais quand vous, par exemple, vous critiquez Foresti, elle a aussi, à ce moment-là, le droit de partir.
Oui, non, ce que je lui reproche, c'est qu'elle n'est pas là comme bénévole ou pour assister. Adèle Haenel, elle est là dans son rôle de cinéaste, elle est là dans son rôle d'actrice, elle est là invitée de femme.
Blessée,
elle n'est pas payée, pardon, pour être là. Elle est là pour éventuellement recevoir une récompense. Elle ne la reçoit pas. Et par ailleurs, Polanski la reçoit. Elle s'en va, c'est légitime. Florence Foresti, elle fait un boulot. Vous démissionnez votre boulot alors que vous savez sciemment que les conditions dans lesquelles vous le faites ne vous plaisent pas. Donc, pardon, vous n'êtes pas à l'article de la mort. Florence Foresti ne me semble pas une ouvrière privée de droit et qui a absolument besoin de travailler. Donc, elle pouvait refuser le job. Elle savait que c'était Roman Polanski qui risquait d'en avoir un. Se trouve illégitime d'accepter le job et de casser, en quelque sorte, la soirée.
Si jamais Florence Foresti est attaquée par Canal+, ou pas rémunérée à la hauteur de son cachet initial parce qu'elle est partie avant, vous refusez de la défendre?
Oh, je ne veux pas dire que je refuse pas la défendre. Moi, je suis avocat.
Là, je vous retrouve, Maître Pierre.
C'est évidemment,
bien sûr, c'est très important. On ne sait jamais. Est-ce que c'est la mort des Césars ou est-ce que ça va être.
Après, ils vont se réinventer. Il y a peu de chances pour qu'elle m'appelle.
La question peut se poser parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez un monde du cinéma qui est complètement divisé et que les Césars, pour se réinventer, il va falloir à un moment donné qu'ils se retrouvent. C'est-à-dire que refaire un nouveau collège de votants, refaire un nouveau conseil d'administration, etc., comme dans un parti politique, eh ben, il faut que tout le monde s'entende et se retrouve. Aujourd'hui, clairement, vous avez l'impression qu'il y a un tel schisme que ça va être très, très, très compliqué. Et c'est pas exclu que les Césars mettent 1 an, 2 ans ou 3 ans pour à renaître de leur cendre.
Emmanuel Pira, le dernier mot là-dessus?
Non, il était temps parce que par ailleurs, moi je suis allé au César un bon nombre de fois. Quand il n'y avait pas de polémique, c'était déjà chiantissime.
Oui.
Donc, il y a un moment, il fallait qu'il se passe quelque chose pour que ça s'arrête.
Mais c'était chiantissime parce que les Césars, déjà à l'époque, n'arrivaient pas à faire la jonction entre le cinéma populaire, le cinéma d'auteur.
Et donc,
vous mettez sur scène des comiques pour faire un peu de gaudriole tout en les récompensant pas parce que vous considérez que le cinéma. Et donc, en fait, les Césars, ça fait des années qui sont très embêtés.
Mathieu Charrier,
oui.
Belle chronique.
Merci.
Aura-t-elle convaincu nos auditeurs et notre invité, Maître Pierra? Il rédige ses conclusions, le jugement tombera pas avant 18h. Vous vous sentez parfois perdu, tout petit, devant la complexité du système judiciaire français. Les raisonnements de votre avocat, Maître Paclair, vous dépassent?
Vu les préjudices subis en vertu des termes des ayants droit, eu égard à la vente laquelle préalablement l'acte complémentaire comme objet des présents à exposer ce qui suit les pièces ci-dessus énoncées et la tête sur l'article 9 bis. Oui, jusque-là, tout est clair.
Changez d'avocat, prenez, si vous en avez les moyens, Maître Pierra, avocat au barreau de Paris, qui publie La justice pour les nuls.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage spéciale justice continue avec notre invité Maître Emmanuel Pierra qui publie un livre fort utile car non seulement nul n'est censé ignorer la loi, mais surtout, et on a tendance à l'oublier, oui, j'ai un peu ripé.
Nul n'est censé quoi?
Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, parce que c'est l'heure de l'apéro bientôt. Mais surtout, et on a tendance à l'oublier, n'importe qui peut avoir affaire à la justice du jour au lendemain. Ça peut aller très vite, par exemple en matière de responsabilité civile. Écoutez, Maître, ce très beau raisonnement de Mathieu Charrier.
Et tu sais, à vélo, le danger, c'est pas toi, hein, c'est les autres. Parce que toi, tu peux renverser un piéton, mais...
Vous prenez Charrier comme client, c'est 20% de chiffre d'affaires en plus, ça, je vous le garantis.
Ça, c'est vrai.
Ah bah, alors, plus sérieusement, Maître Pierre, à quel âge avez-vous voulu devenir avocat? Est-ce que c'était une passion ou un choix raisonné?
À 14 ans, à Pantin, dans la commune de banlieue communiste où j'habitais et où je voyais les noms des avocats, grands hommes politiques et grands avocats ou grands hommes de lettres souvent, accrochés sur tous les murs de la ville communiste où j'étais. Donc il y avait tous les grands noms de la Troisième République. Et je me disais, il y a ce métier extraordinaire qui existe, de gens qui n'avaient pas de famille riche, qui n'héritaient pas d'une charge, qui pouvaient, par la force du verbe, sans aucun moyen matériel autre que la parole, devenir quelque chose et défendre quelqu'un. Voilà. Ça vous paraît très angélique, hein, mais c'est vraiment ma vocation est née comme ça.
Il y a une grève des avocats dernièrement contre le système de retraite. Vous êtes de ceux qui ont jeté la robe pour manifester votre mécontentement ou pas du tout ?
Je n'ai pas jeté ma robe hein, parce que c'est un geste que je ne ferai jamais, mais je suis solidaire avec les grévistes, bien sûr. C'est un peu long à expliquer et ça nous emmènerait sur l'état de la justice en général. Mais c'est vrai que la façon dont la ministre de la Justice traite le système judiciaire dans son ensemble, hein, l'aide juridictionnelle, les moyens donnés pour juger des affaires et le traitement des avocats est digne d'un pays qui n'appartiendrait même pas à l'Union européenne si on prenait les vrais chiffres. Hein. On ne nous compare même pas avec la Moldavie. On est très en dessous en matière de prison, en matière de moyens. Il nous faudrait presque une sorte de coronavirus dans la justice. Vous voyez, l'hôpital public... Non mais l'hôpital public va s'en sortir in extremis parce que d'un seul coup, le gouvernement va mettre des moyens face à la crise. Nous, il n'y en a pas de coronavirus, donc on va mourir doucement, entre guillemets, d'une justice on dit plus de tiers-monde parce que c'est pas politiquement correct, mais c'est à peu près ce que je pense. Et la justice est dans le même état, c'est un endroit essentiel de la République, c'est comme l'école. Il y a l'école, il y a l'hôpital public et il y a la justice pour moi qui sont dans les rouages essentiels. Après, on peut rajouter l'impôt quand on est hyper civique, mais quand même, c'est pas notre truc préféré. Voilà.
Connaissez-vous vos droits et vos devoirs, car les deux vont de pair. Il publie La justice pour les nuls. Emmanuel Pierrat passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, préparons-nous à accueillir un orateur de génie. Éminent chef du service éco d'Europe 1, à chaque fois, quel que soit le sujet, il a le don de nous emporter par son sens du récit.
Peut-être qu'il faut rappeler pourquoi c'est si bas. C'est parce que ça dépend d'une formule mathématique qui dépend de l'inflation et de l'évolution des taux d'intérêt. Et un autre chiffre, pour que ça ait été intéressant, il y a eu un taux de rémunération qui a été créé pour que les gens placent leur argent sur ce genre de produit. Mais c'est un vrai boulot. Ça va, c'était pas trop chiant ?
Oh non, c'était génial ! On a hâte ! Aujourd'hui, Emmanuel Duteil nous parle des photos volées des familles princières. C'est plus sexy.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Commis d'office, mise en demeure, cour de cassation, cour d'appel. Si vous êtes aussi à l'aise que moi avec les termes juridiques, si comme moi vous pensez que le parquet est avant tout un revêtement plus agréable à l'œil que la moquette et que le bâtonnier est un arbre fruitier donnant des fruits en forme de petits bâtons, alors procurez-vous rapidement La justice pour les nuls, l'ouvrage de notre invité, Maître Emmanuel Pierrat. Alors Maître, j'imagine que c'est lassant d'avoir des clients qui ne comprennent rien à ce que vous leur dites, mais je crois savoir qu'il y a plus ennuyeux encore pour un professionnel du droit qu'un client qui n'y connaît rien, un client qui croit s'y connaître et qui vous sort des articles de loi. Quelqu'un m'a soufflé ça.
Ça c'est le plus difficile. Moi je comprends très bien qu'on ne connaisse pas les outils du droit, c'est un langage opaque. Tout est fait pour être incompréhensible par le justiciable. Hein. On utilise encore des formules latines.
Oui.
Je sais pas qui. C'est en plus c'est du latin de cuisine. C'est même pas celui qu'on apprend que mes filles apprennent à l'école. C'est vraiment un latin inventé quelque part dans une sorte de dessin animé au début du voilà. Et c'est du latin de cuisine. On utilise un vocabulaire quand même. On parle entre initiés. Vous savez, quand je suis dans une salle d'audience et que je représente mon client et qu'il est dans la salle, je dis au juge pour faire comprendre que je vais être un peu plus long que prévu. Je dis, je plaide corps présent. Ça veut dire, mon client est dans mon dos, il est derrière. Vous allez vous taper un quart d'heure de plaidoirie trop qui sert à rien, c'est pour lui faire plaisir.
C'est vrai ?
Alors, moi, je trouve ça... Mais parce que je trouve ça insensé d'avoir ces codes pour dire en gros au juge, voilà, on va faire semblant de traiter son affaire juste parce qu'il est là et que ça lui fait plaisir et qu'il n'y comprend rien. Voilà, donc c'est un langage opaque que j'essaye, moi, de désocculter, en tout cas de rendre intelligible.
Oui, mais là, avec ce livre, si moi je lis ce bouquin, ensuite j'ai un problème, je viens vous voir pour être mon avocat, je vais
vous dire, regardez,
il y a ça, il faudrait plaider ça. Vous allez me dire, non, mais t'as rien compris, en fait.
Un jour, un avocat, un confrère adverse me dit, parce que j'ai écrit beaucoup de livres et beaucoup de livres de droit, me dit, vous êtes trompé à l'audience, il me dit, chapitre temps dans votre livre, vous écrivez le contraire de ce que vous avez plaidé. Et il me dit, on écrit toujours trop. Et là, je prends le bouquin, je tourne la page d'après, je lui dis, chapitre suivant, je dis exactement ce que je suis en train de plaider, on ne lit jamais assez.
Vous l'avez retourné. On continue notre joli voyage dans l'histoire de la justice, mais vous le savez, la compétition n'attend pas. Voici notre deuxième concurrent, un journaliste que je sens tout à fait emballé par notre thème du jour sur le fonctionnement des institutions judiciaires.
Là, ça m'émoustille totalement, là, vous imaginez pas.
Foutez-vous de ma gueule, Duteil, mais n'oubliez pas, moi aussi, je vote à la fin. Emmanuel, vous nous rappelez votre sujet du jour sur les princesses et les princes, hein ?
Oui, alors je vais essayer de coller au centre d'intérêt de notre invité parce que j'ai l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que ça marche plutôt bien pour mes piètres compétiteurs qui tentent à chaque fois cette opération de flagornerie, mais bon, il faut semble-t-il se mettre dans leur clou pour essayer d'y arriver à cette émission. Donc cet après-midi, je vais vous parler des photos volées des têtes couronnées, parce que j'ai une petite passion pour les rois et les reines. La plupart attaquent directement et souvent gagnent beaucoup d'argent de la part de la justice, en tout cas la justice décide de leur donner au final pas mal d'argent. L'une des photos les plus connues en la matière, d'après vous, c'est laquelle ? D'une tête couronnée, je parle.
C'est la, Lady Diana ou pas, non,
C'est la Duchesse de Cambridge.
Un petit peu plus récent, voilà. C'est effectivement son Altesse Royale, la Duchesse de Cambridge, que l'on peut également appeler de son petit nom Kate. Vous vous souvenez de cette photo seins nus dans le
bébé
On avait appelé ça la deuxième lune de miel, un an et demi après leur mariage. Ça avait été pris donc en 2012, et des photos qui avaient été publiées à l'époque dans, Closer.
Et le couple avait attaqué.
Oui, bien sûr, ils réclamaient 1,5 million d'euros au magazine pour dommages et intérêts. Alors, ils ont eu beaucoup moins, mais je crois que dans ce cas-là, c'est quand même énorme. Ils ont eu 100 000 euros de dédommagement.
Maître Pierre aurait obtenu plus. 250 000.
Non, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup.
Et surtout, ce qui avait été à l'époque très étonnant, puisque là, c'était, je crois, la charge maximum.
C'est beaucoup pour des gens qui n'en ont pas beaucoup besoin.
Oui, c'est ça,
hein,
surtout.
Il faut surtout ramener les choses à leur juste réalité.
Mais en plus, ils avaient réussi à faire condamner la directrice de la rédaction de Closer et le directeur de la publication, et eux avaient eu chacun 45 000 euros, qui, je crois, est la peine maximale en la matière. Donc, ils avaient eu une très, très grosse condamnation pour cette photo publiée dans Closer.
Parce qu'il y a une chose aussi, les Royals britanniques ne peuvent pas attaquer sur le territoire britannique. La loi anglaise ne leur permet pas d'attaquer.
Façon, là,
la loi anglaise est moins une loi de censure ou de protection de la vie privée que la loi française. Donc ce qu'ils font depuis quelques années, c'est qu'ils viennent devant les juridictions parisiennes ou françaises demander réparation pour toutes les publications dans le monde. Ce qui fait que, évidemment, quand vous avez Kate Middleton qui se pointe, elle n'attaque pas Closer. Derrière, elle attaque en réalité Closer plus tous les tabloïds britanniques en demandant aux juges français de réparer ces pauvres malheurs, la pauvre chérie. Heureusement qu'on en a envoyé une au Canada quand même.
Mais rassurez-moi, ils le font pour le symbole, pas pour l'argent. La famille royale anglaise.
Vous savez, ceux qui sont spécialistes en la matière, alors il manque pourtant pas d'argent non plus, mais force est de constater quand même qu'ils ne le redistribuent pas énormément, c'est la famille de Monaco. Et notamment Caroline de Monaco, elle a une règle, elle attaque à chaque fois qu'il y a une photo non officielle d'elle. Et là aussi, ça peut monter pas mal, hein, puisque j'ai regardé les dernières publications qu'elle a pu avoir, on est aux alentours de 50 000 euros généralement en termes de condamnation. Et là aussi, j'ai comparé avec les stars de cinéma, c'est souvent plus pour la famille de Monaco que pour les stars de cinéma. Et par exemple, si vous lisez Voici ou ce genre de magazine, ils sont remplis de condamnations pour publication de photos volées. On appelle ça une insertion judiciaire. C'est plus courant pour la famille de Monaco que pour les autres starlettes. Et à cela, une raison, m'a-t-on dit, les people passent, donc on a moins d'intérêt pour eux, alors que les familles royales restent. Et du coup, leur cote est plus élevée. C'est pour ça qu'ils arrivent à obtenir plus d'argent et qu'ils arrivent à obtenir plus d'insertion judiciaire.
Non, il faudrait arriver à séparer. Il y a d'un côté les procès un peu légitimes, Kate Middleton prise seins nus, c'est une paparazzade, c'est pas agréable du tout. Accessoirement, quand ils attaquent simplement parce qu'on a republié la photo d'un corgi accompagnant la reine, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça, c'est pour aller chercher des sous. Moi, j'ai gagné un très très beau procès il y a de très nombreuses années pour un paparazzi qui avait fait Ducruet nu. Vous vous souvenez de cette histoire? C'était les Monaco. Et le procès avait été assez insensé. Et le comportement des intéressés qui jouaient avec le feu, c'est-à-dire qui se montraient en public, qui attaquaient le lendemain, avait beaucoup joué. Et j'avais réussi à obtenir un bon score pour le paparazzi. Mais il y avait une chose qui m'avait beaucoup amusé dans ce procès, que je vous raconte, pour le plaisir de l'anecdote. Le juge, vous vous souvenez, c'est des photos au bord d'une piscine où d'un seul coup, il s'envoie en l'air avec Miss Sanu de Belgique 1994. Et donc, ça paraissait dément parce qu'ils se ruent l'un sur l'autre et ils s'envoient en l'air. Le garde du corps se tape une lunette à côté. Enfin, ils ont l'air d'être en route, mais un point insensé. Et alors, le juge dit, mais vous les avez drogués, monsieur le paparazzi, vous avez mis de la drogue dans des boissons pour qu'ils se rendent comme ça, etc. Il dit, non, j'ai mis le chauffage à fond dans cette ville-là. Il faisait 48 degrés, on est au mois d'août, ils arrivent dans le truc, ils se sentent, c'est tellement chaud qu'ils arrachent leurs vêtements, ils se jettent dans la piscine tout nus, puis après c'est parti. Ça m'avait donné une leçon et il m'avait dit, et le juge nous a regardé en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, il dit que j'ai fait la même chose avec Gérard Depardieu et Carole Bouquet à l'époque. Ils étaient à Venise, c'était une histoire d'amour, je savais pas comment faire, j'ai mis le chauffage à fond dans leur chambre, à l'hôtel, en payant le groom. Et mais je me suis planqué dans le truc d'en face. Ils ont ouvert la fenêtre, évidemment, pour prendre l'air. Et ils avaient à moitié défait leur chemise. Ils se sont embrassés à moitié nus. Donc, c'est comme ça qu'on a révélé leur histoire.
C'est atroce.
Je m'étais dit, purée, je défends quand même des types capables de choses assez, assez étonnantes. Mais la nature humaine est beaucoup plus simple, vous voyez, que la drogue ou des choses pour les pousser à se mettre tout nu.
Eh bien, on en apprend des choses cet après-midi sur Europe 1. Merci, Emmanuel Duteil. Votre chronique aura-t-elle intéressé notre invité, Maître Pierre? Nous le saurons juste avant 18h.
Europe 1.
126 jours que chaque après-midi, quand vient le quiz, je me paye sa tête sous prétexte qu'elle perd 9 fois sur 10 contre l'invité. Une belle tradition que je m'apprêtais à honorer une fois de plus aujourd'hui, quand soudain je me suis souvenu. Hier, durant le quiz, qui était un blind test, ce n'est pas Eva Rock qui a été ridicule, mais un présentateur barbu, assez imbu de sa personne et surtout persuadé d'être pointu musicalement. Eh ben, on a vu. De qui?
Quoi, de qui?
Le groupe.
C'est le groupe AA.
Autant pour moi. À tout de suite pour le quiz.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Il publie La justice pour les nuls. Son métier d'avocat est également sa passion. Ado, devant cette célèbre scène de Star Wars où Darth Vader annonce à Luke
« Luke, je suis ton père ».
Il se disait pas comme nous, tiens c'est ouf, mais ok, si c'est son père alors il a droit à 50% des parts de la SCI, sauf si on apprend ensuite que Léa est sa sœur. Là, sauf que d'ici le dérogatoire et conformément à l'article 212 du code civil, il n'aura que 25% diminué des frais de mutation. Maître Emmanuel Pierrat nous accompagne et nous éclaire cet après-midi. Alors, Emmanuel Pierrat, est-ce qu'aujourd'hui un avocat est obligé d'être médiatique? C'est devenu nécessaire. À une époque, c'était peut-être une coquetterie. Aujourd'hui, pour fonctionner, quand on a un grand cabinet d'avocats comme vous, il faut être présent dans les médias.
Oui, moi, je pense qu'il faut parler, en tout cas, en dehors de la salle d'audience. Souvenez-vous, la salle d'audience en France, c'est un endroit incroyable. On ne peut pas y filmer, on ne peut pas enregistrer. On peut y faire des dessins d'audience, des petits dessins. Et le compte-rendu judiciaire, la chronique judiciaire, qui est souvent faite par des excellentes femmes journalistes, elle est faite le soir dans le journal, sur les marches du palais, à la radio ou à la télé en deux minutes, ou dans un écrit qui vous raconte, vous résume le procès. Donc c'est un endroit où se passent des choses essentielles, mais qu'on ne peut pas filmer. On peut y venir, c'est public. Alors il y a évidemment des échos déformés, parce que si vous ne pouvez pas saisir en direct et si le public ne peut pas suivre en direct ce qu'il se passe, et je ne le reproche pas, hein, je trouve que la sérénité des débats, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas se comporter en fonction de l'angle de la caméra dans un box quand on est accusé ou quand on est en train de plaider, me semble assez rassurant. Mais en même temps, derrière, l'opinion publique, elle parle du procès, elle parle de votre affaire. Les juges font partie de l'opinion publique parce qu'ils déjeunent avec leurs amis, ils parlent avec leurs enfants, ils ont beau essayer de séparer, donc il faut aussi leur parler quand ils regardent la télévision.
Alors, cher maître, des plaidoiries difficiles, vous avez dû en connaître. Mais dans la séquence qui suit, si vous espérez l'emporter, il va vraiment vous falloir tout donner. Voici le quiz contre Eva Rock. Manuel Pierrat, pour ce quiz face à Eva Rock, on va parler de justice.
Je suis déjà fatiguée.
Rien de plus simple, c'est un vrai faux. Une bonne réponse vaut un point, c'est parti. Eva Rock. Dans le Kentucky, en 1996, Larry Ruttman a lancé un boomerang qui lui est revenu dans la tête. Il a intenté un procès contre lui-même pour blessures involontaires. Il a perdu, mais son assurance a été contrainte d'indemniser. Du coup, il a empoché 300 000 dollars. Vrai ou faux?
Il me semble que c'est vrai.
C'est vrai?
Ouais.
C'est faux!
Ah,
c'était une info du Weekly World News, qui est en fait l'équivalent du Gorafi en France.
Ah, bah je lis ce journal alors. Donc.
Le problème, c'est que vous le lisez au premier degré depuis 2010. D'où un certain nombre d'informations que vous avez données à nos auditeurs qui n'étaient pas correctes. Emmanuel Pierrat, dans le Code du travail, si on effectue des travaux salissants, non seulement le temps passé sous la douche doit être pris en compte dans la durée du travail effectif, mais en plus, la température de l'eau doit être réglable. Vrai ou faux?
Pour la température de l'eau, je ne crois pas, mais pour le reste, oui, je pense que c'est compensé.
Quelle est votre réponse? C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai, plutôt vrai.
C'est vrai? Oh, vous avez eu chaud, Maître Pierrat. C'était la bonne réponse. Alors,
mais
c'est
non.
L'article R4228-9, je ne sais pas comment on dit, du Code du travail. Et, oui,
bah oui, qui prend en compte le fait que vous salissez, que vous avez un temps supplémentaire chaque jour, quotidiennement, pour aller vous nettoyer, et qui n'est pas lié à l'hygiène, mais qui est lié à votre travail.
Et alors vous, pour vous,
douche, alors,
mais vous, oui, vous devez nettoyer votre langue avec toutes les...
Avec tout, quoi, toutes les saloperies qu'il dit toute la journée.
Lui, il doit nettoyer sa langue avec toutes les saloperies.
Oh, ouais. Oh, mais quelle attaque.
Bah oui. Ah, oui.
Ah, attention.
Mais c'est pas travail. Le métier qu'il salit, c'est lui-même qui est pourri d'intérieur. Allez, hop.
Emmanuel Pierrat, je vous fais écouter Boogie Nights du groupe Heatwave.
Ça sent le plage là.
Et
ça,
maintenant,
hein,
je vous fais écouter Off the Wall de Michael Jackson. Il y a une certaine ressemblance. Mais il n'y a pas eu de problème en fait. Pourquoi? 1. Parce qu'ils avaient déjà pompé le morceau sur un autre groupe, du coup ils n'ont pas fait de procès. Ou 2. Parce que le compositeur est le même pour les deux chansons.
Je dirais la 1 parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'était Michael Jackson en composait avec Quincy Jones. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il ait fait également Boogie Nights.
J'aurais répondu exactement ça, Eva.
Moi j'aurais répondu la 1 aussi.
Oui, et ben on aurait tous eu tort. Le compositeur, moi je pensais que Off the Wall c'était Michael Jackson ou Quincy Jones. Non, c'est le même compositeur, Rod Temperton. On lui doit Thriller, Give Me the Night de George Benson et Stomp des Brothers Johnson. Gloire à Rod Temperton. Eva Rock, attention, vous pouvez peut-être remporter le quiz aujourd'hui. Je ne sais pas où on en est exactement des votes.
Non, j'ai déjà perdu.
Du compteur. Eva Rock, le témoin dans un procès vient du latin testis, qui a donné testicule. Vrai ou faux?
Franchement.
Mais c'est très sérieux, Mathieu Charrier. Question pointue.
De tricher, mais...
Devant Maître Pierre.
J'irai vrai.
Elle dit vrai. C'est la bonne réponse. Dans la Grèce antique, un témoin devait jurer en mettant sa main sur ses testicules. Vous connaissez cette histoire,
Maître Pierre? Oui, bien sûr, parce que c'est de la façon... Ne pouvaient témoigner que les hommes. et pour désigner, pardon, le fait, la virilité, il fallait. Mais on fait ça aussi, on a fait ça pendant longtemps pour les papes. Vous savez, après l'histoire de la pape Jeanne, pour vérifier que le pape était véritablement un homme et pas une femme qui était déguisée. Et donc, on vérifiait les testicules. Voilà, pour être sûr du témoignage, entre guillemets, de celui qui allait réincarner la succession de Pierre.
Je reconnais avoir triché.
On vérifiait les testicules, c'était le mot de la fin. Qui remporte ce quiz ?
Non, c'est Maître Pierrat parce qu'il m'a donné la réponse.
Comment ça, vous avez triché ?
Mais parce que j'ai regardé dans les yeux Maître Pierrat et il m'a fait un petit clin d'œil pour me faire comprendre que c'était vrai la réponse.
Mais c'est pas un clin d'œil MeToo, hein. On est d'accord. Hein. C'est
attention,
un clin d'œil
attention.
D'aide, voilà, de solidarité.
Bon, grâce à lui, la justice vous paraîtra plus simple, en tout cas moins opaque. Il publie La justice pour les nuls. Emmanuel Pierrat est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, les amis, un îlot de douceur dans un océan de fiel. Qui n'a jamais gravé sur un arbre son nom, accolé à celui de l'être aimé ?
Dick Rivers.
Par exemple, oui, chacun ses vices. Eh bien, cessez d'agresser de pauvres arbres innocents. En 2020, la ville de Toulouse vous propose de graver vos noms directement sur les bancs publics.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Elle a beaucoup bourlingué, sentimentalement parlant, mais je suis heureux de vous annoncer qu'Eva Rock a enfin trouvé une forme de stabilité affective avec moi. Ce qui ne l'empêche pas de conserver de la tendresse pour ses précédents amants.
On embrasse tous les garagistes qui nous écoutent.
Bien sûr, et les plombiers. Mais désormais, Eva, je suis le soleil de votre vie et vous n'avez qu'une hâte. Oui, je vous l'apprends aujourd'hui en direct Europe 1.
Oui.
Vous n'avez qu'une hâte, que nous gravions nos noms dans un petit cœur sur un grand peuplier.
Oui.
Eh oui, eh bien non, Eva, en 2020, il y a mieux à faire. Il faut aller à Toulouse pour ça. Je suis un gentleman, on partage le prix du billet si vous voulez. Bonjour Benjamin Péter.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, racontez-nous, à Toulouse, on ne grave plus son nom dans un cœur, sur un arbre, mais sur un banc public directement.
Il n'y a pas qu'à Toulouse, mais effectivement, j'avais envie de vous parler d'amour aujourd'hui. Rappelez-vous Mathieu, il y a quelques années, à l'âge où Emmanuel Pierrat rêvait déjà d'être avocat et que vous, avec votre typex, vous écriviez sur les tables du collège vos initiales et celles de Nathalie Pochard, de 5e B, entourée d'un cœur et
ses
quatre
aussi.
Lettres. Mais oui, on sait que c'est vous, ne niez pas. Avec ces quatre lettres AESD pour amour éternel sans divorce, sauf que ça valait 4 heures de colle à l'époque. Ou pensez à tous ces gens qui ont acheté des cadenas sur le pont des Arts à Paris, entre 4 et 8 fois le prix, tout ça pour qu'on les retire, parce que le poids de ces milliers de cadenas fragilisait la structure du pont. Eh bien, Chat Maigre, un artiste toulousain, a la solution. Il vous propose de graver votre message d'amour légalement sur un banc participatif qui va durer dans le temps. Et l'idée, c'est que ce soit accessible à tous.
Là, on peut carrément laisser un message ancré dans la matière. C'est un nombre de caractères pour que tout le monde puisse participer. Donc, on a pu avoir des messages pour 4 euros, c'est le prix d'un sandwich, avec les quatre initiales et un cœur, ou sinon carrément des poèmes. Mais il faut que ça soit un message positif pour celui qui l'écrit, mais aussi pour celui qui le lit, que ça donne le sourire.
Voilà, alors il y a des projets de banc un peu partout, et quand le banc est complet, que plein de gens ont participé sur le site internet de Naëlou, le banc est créé et installé sur la voie publique.
Et alors, comment réagissent les gens quand ils découvrent leur petit message ?
Eh bien, pour ça, je vous emmène à Aigues-Vives, charmant petit village juste à côté de Toulouse. C'est là que le 13e banc Naëlou a été inauguré vendredi dernier, et vous allez l'entendre pour Karine et Florence. Il y a beaucoup d'émotions au moment de découvrir leurs petits mots.
Moi, faites votre vie un rêve et de vos rêves une réalité pour mes petits-enfants. Puis pour mon chéri, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Parce que c'est notre chanson. C'est chouette et puis on sait que ça restera.
Alors moi, on m'a marqué. Table d'école, banc public, notre amour pour l'éternité. Et en fait, sur les tables du collège, avec la pointe de mon cutter, je gravais de petits cœurs avec nos initiales et je disais que c'était pour l'éternité. 30 ans plus tard, il me le grave sur un banc public. Je trouve ça joli.
Voilà, trop mignon.
C'est mignon.
Et Chat Maigre participe aussi parfois à des ateliers d'écriture dans des écoles ou des associations pour trouver des citations ou des petites phrases pour compléter un banc. Et puis ce qui est génial, c'est aussi de découvrir les messages des autres, tendres, parfois énigmatiques, mais qui donnent le sourire. Et attendez, mais c'est quoi ce truc ? Je suis en train de regarder les messages du dernier banc, je crois qu'il y en a un pour vous.
Pour Eva,
Mathieu,
pour moi.
Mathieu plus Eva égale AEED. Je crois que c'est audience éternelle en direct.
Et c'est vrai, regardez, il m'a envoyé la photo.
C'est vous qui avez fait graver cette connerie ?
Je crois bien, bien.
C'est génial.
4 euros, vous auriez pu vous payer un bon sandwich.
Mais non, mais soyez
c'est
un peu
par caractère, c'est un peu plus que 4 euros.
C'est un peu plus que 4 euros.
Mais oui,
en
mais...
En tout cas, votre amour radiophonique est donc gravé dans la matière.
Benjamin.
Découpé au laser dans le banc
métallique.
C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis très longtemps.
Ce qui en dit long sur la vie des Baroques. On est c'est une tristesse. Rappelez-moi Aldelaf qui nous joue la tristitude en direct. Écoutez, Benjamin Péter, je vous remercie. Je vous aimais.
Et promis, la prochaine fois que vous venez sur Toulouse, je vous invite à venir le voir.
Ah bah, et bien sûr,
c'est un peu votre banc, désormais.
On ira poser nos fesses sur notre propre message. Merci, Benjamin Péter.
À bientôt.
Europe 1.
Nous avons tous affaire à la justice, un jour ou l'autre. Que l'on soit victime d'injures, comme moi et tous ceux qui travaillent avec Eva Rock.
Arrêtez, bande de bâtards que vous êtes, quoi.
Ou que l'on soit dans le box des accusés, comme Mathieu Charrier, pour propos déplacés dans un cadre professionnel.
Que des gonzesses dans ce studio. Ça me va.
On a tous besoin de comprendre le fonctionnement du système judiciaire et on a tous besoin d'un bon avocat. L'équipe Sauvage vous propose les deux cet après-midi puisque Maître Pierrat reste avec nous.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe Sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe Sauvage. Maître Emmanuel Pierrat est notre invité cet après-midi à l'occasion de la parution d'un ouvrage qui nous est dédié, La justice pour les nuls. Tout pour comprendre le fonctionnement de nos institutions judiciaires, s'y retrouver dans la jungle des lois, la brousse des réglementations. Car on le disait et on le rappelle, nul n'est censé ignorer la loi, sauf Patrick Cohen qui est au-dessus. De même que le PSG à Mbappé, l'équipe Sauvage à Patrick Cohen. Un journaliste au-dessus du lot qui, de temps à autre, nous fait l'honneur de se joindre à nous par pure amitié, car Dieu sait que la préparation de deux émissions de télé, dont une quotidienne, est chronophage, sans compter les tracas du quotidien. Réfection de la toiture de sa villa du Pilat, révision chez Aston Martin. Tout ça prend un temps fou quand on n'a que trois assistants. Bonjour Patrick Cohen.
Bonjour Mathieu.
Sujet
quel
malicieux.
C'est ça.
Il m'a percé à jouer au coquin. Sujet malicieux aujourd'hui, puisque vous nous parlez du coronavirus, mais en chanson.
Voilà.
C'est votre contre-pied.
Succombé en sifflotant. En quelque
gardez
sorte.
Gardez le sourire jusqu'au cercueil. À vos côtés, Patrick, une femme exceptionnelle. Actuel leader du championnat européen des meilleurs journalistes. Patrick, comment vous définirez Anne Le Gall en un mot ?
Milf.
Bonjour Anne.
Bonjour, c'est charmant.
Vous l'avez dit à quelqu'un en tout cas. Vous êtes Anne, l'expert environnement d'Europe 1. Maître Pierrat, c'est comme quand vous défendez des migrants, c'est pro bono, mais c'est bon pour notre image de l'avoir. Et aujourd'hui Anne, contre toute attente, pour sauver la planète, les scientifiques s'inspirent de la Bible ?
Oui, alors l'Arche de Noé, c'est un concept biblique, mais très très contemporain, puisque l'Arche de Noé norvégien, qui héberge des espèces végétales, est en train de s'enrichir. Et je vais vous raconter ça, en fait, c'est plus qu'un bateau, en fait, c'est un frigo caché sous une montagne, je vais vous raconter.
Ça veut dire que si tout part en sucette demain avec le coronavirus et le réchauffement, là, il y aura
une
poche, on a toutes les espèces
montagne.
Végétales, on pourra recréer la Terre ailleurs.
On pourra tenter, en tout cas.
Alors, l'Arche de Noé polaire d'Anne Le Gall ou les chansons paillardes de Tonton Cohen, quel sujet vaincra aujourd'hui ? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité, Maître Emmanuel Pierrat. Avant de continuer de feuilleter votre livre La justice pour les nuls, on s'est demandé quel était le rapport des Français à la justice. Lui faites-vous confiance ? Eh bien, on est allé vous poser la question.
Si j'ai confiance dans la justice de mon pays, pour certaines classes sociales, la justice n'est pas vraiment rendue.
Je crois qu'elle est malade, notre justice.
Une justice à plusieurs vitesses.
On va refaire 1789.
Le parquet est à la solde du gouvernement, enfin des choses comme ça, qu'il y a trop de gardes à vue sans raison.
Les Blancs, ils vont pas les mettre en prison, alors que les Arabes et les Noirs, ça se voit, ils vont les mettre directement en prison.
Ceux qui manifestent et qui se retrouvent avec des problèmes de justice, à mon avis, disproportionnés par rapport à ce qu'ils font.
Mais oui, c'est long, les gens ils font rien, ils sont en prison, il y en a qui font les choses, ils sont pas jugés, on est bien content. Je préfère avoir affaire ni à la justice, ni à la police, ni à personne, voilà.
Seulement à Europe 1.
Surtout à Europe 1. Maître Pierrat, est-ce qu'on est tous égaux devant la justice ou comme le disent certaines personnes, enfin, selon que vous soyez puissant ou misérable, c'est pas tout à fait le même
rapport. Non, c'est ce qu'on disait au début de l'émission quand je vous reprenais en disant qu'on n'a pas affaire à la justice mais à l'institution judiciaire. Elle est humaine, elle est lente, elle est sous-payée, elle est surchargée, donc elle est encombrée, elle est faillible largement, enfin en tout cas elle est largement à perfectionner. Donc, mais c'est pas pour autant qu'il faut désespérer, moi je trouve qu'il y a des hommes et des femmes qui jugent dans ce pays, qui sont courageux, qui rendent de vraies décisions, qui tâchent de penser en droit et en équité. C'est-à-dire avec humanité. Voilà, je suis critique face au ministère de la Justice et au budget. Je suis très reconnaissant aux fonctionnaires du service public de la justice de participer, aux greffiers, aux greffières, aux gens qui passent du temps jusqu'à 2h du matin pour juger des affaires où ils ne sont pas bien payés dans des conditions matérielles épouvantables. Sincèrement, même le nouveau palais de justice à Paris, si vous n'attrapez pas la grippe ou le coronavirus, vous allez avoir du bol parce qu'il a été conçu pour être moderne, 180 mètres, et on ne peut pas régler le chauffage ni la clim. Donc, vous voyez, on marche avec des absurdités, même quand on dépense de l'argent, et on rend la justice dans ce pays, malgré tout, relativement bien. Après, on peut critiquer la police, la prison. Moi, je le pense. Ce sont deux maillots.
On emprisonne trop en France aujourd'hui.
On emprisonne trop, évidemment. Si on devait emprisonner, alors il faudrait commencer. Ou alors, si on est pour l'emprisonnement, il faut commencer par faire des prisons dignes. Mmh. Ça fait un an que la prison de la Santé a été entièrement refaite et réouverte. Elle a 128% de taux d'occupation. Un an plus tard. C'est une prison supposée être modèle dans le cœur de Paris. Comment voulez-vous ensuite que dans un tel établissement pénitentiaire, les gens se réinsèrent, apprennent un métier, réapprennent ce que c'est que le sens civique, la vie en société? C'est impossible. Donc la prison est une usine à traiter des cas psychiatriques, à en créer d'autres et à rendre des gens encore plus miséreux qu'ils ne l'y étaient en entrant.
Emmanuel Père, une question très pragmatique qui me vient en pensant à nos auditeurs qui ont des enfants, qui cherchent une orientation professionnelle. Avocat, vous conseillez ce métier? Déjà, ça gagne combien, avocat? Il y a beaucoup de fantasmes qui circulent. Certains pensent que les avocats gagnent des fortunes.
Gagnent très très peu d'argent, vraiment. Ils sont en dessous, sont quasiment au SMIC ou en dessous du SMIC, parce que c'est un métier libéral, donc il n'y a pas de salaire fixe. D'autres se portent mieux, c'est mon cas, très sincèrement. Je ne vais pas le cacher. Il y a une petite population entre deux. Moi, je pense que c'est un métier extraordinaire. Et j'ai des confrères et des consoeurs qui le pratiquent avec des tarifs ou une rémunération extrêmement basse, mais qui sont des engagés dans la société, qui défendent les migrants, qui défendent les droits des travailleurs, qui défendent éventuellement des petits employeurs et des petites entreprises, qui vont défendre les gens dans les affaires de droit des familles, des enfants. Je trouve qu'il y a des avocats remarquables en France. Nous sommes des auxiliaires de justice. Et moi, je vous dis, j'ai choisi ce métier en choisissant d'être avocat, en choisissant d'être avocat par ailleurs dans un domaine qui est un peu la culture, mais aussi d'autres affaires, et en refusant ce qu'on me proposait, un pont en or pour faire de la fiscalité internationale et des choses qui, moi, me semblaient... qui rapportait énormément d'argent et qui me semblait soporifique et ne pas être utile à la société. Mais je me réjouis chaque matin que tous ensemble nous fassions œuvre de justice, et c'est pour ça que je suis solidaire de la grève de mes confrères et de mes consoeurs.
Maître Emmanuel Pierra passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, il est mon père spirituel dans le métier, et qui sait, connaissant Loustic, peut-être découvrira-t-on un jour qu'il est aussi mon père biologique tout court.
Un simple don de sperme dans les années 70.
Et oui, Patrick Cohen se prépare à vous révéler les effets positifs du coronavirus, ses chansons qu'il a inspirées de par le monde. On sera peut-être décédé, mais avant, ce sera bien marré. Vous êtes comment, Patrick?
Plus dur que l'acier.
On y est en pleine forme, à tout de suite.
Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Rigueur journalistique, détente zygomatique, vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1, sous l'œil cet après-midi d'un homme de loi, Maître Emmanuel Pierra, qui nous décrypte les subtilités du droit français dans la justice pour les nuls aux éditions First. On continue d'en parler, mais la compétition va entrer à présent dans une nouvelle dimension avec la chronique de Patrick Cohen. Comme disait notre invité d'hier, Philippe Manœuvre, ça va aller
plus loin, plus profond, plus fort.
Car Maître Pierra, je ne vous présente pas Patrick Cohen, figure légendaire du journalisme français. Quand un sujet d'actu est vraiment important, c'est à lui qu'on le confie. Cet après-midi, vous nous parlez bien sûr de cette inquiétude qui monte partout dans le monde. La peur est en train de gagner nos sociétés, la raison.
Les sardines pourraient bien coûter nettement plus cher en rayon.
Mais non Patrick, le coronavirus, c'est ça qui concerne tout le monde actuellement. Vous nous parlez du coronavirus, Patrick.
Absolument.
Mais en chanson,
voilà.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Puisque l'épidémie s'éteint et qu'on va tous mourir, autant y aller en chanson. Et d'abord, par une prise de température.
En meuf de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer.
Fever en version française.
Oh, génial. Et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs.
Oui, c'est bien cela, le virus circule comme dans les marmites de l'enfer. L'adaptation est signée Boris Vian. Et wow. L'enfer, sachez-le, commence toujours par ce symptôme.
La fièvre est revenue. La fièvre est revenue.
C'est beau ça.
Revenu aussi Joe Dassin. Oui, spécialement pour cette playlist, Joe Dassin, dont la famille a été durement touchée.
La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier.
En janvier, d'autres se résignent, attendent le virus et se préparent à l'issue fatale.
Quand frappé traîtreusement par une grippe mauvaise, celle qu'abattent en plein vol les princes des comptoirs, l'heure sonnera pour moi d'aller sucrer les fraises dans des rades lointains du côté d'autre part.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Guy Béard en témoigne, il en a réchappé. Il vainquit le virus, mais perdit sa poupée.
Elle me soigna pendant ma grippe. Toujours en perdu les grands principes. Puis elle me quitta bien portant. En perdu des grands sentiments.
Les sentiments qui doivent désormais s'exprimer à distance, embrassades, caresses et autres palpations étant proscrits par le corps médical, mais la maladie n'empêche pas les compliments et le jeu de la séduction.
La grippe vous va très bien,
m'a dit mon amant ce soir.
Ça vous donne un joli teint, ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien.
souffrait que je tousse un peu. Lui ai-je dit d'un air doux, souffrait que je souffre un peu. J'ai parfois très mauvais goût, souffrait que je souffre un peu.
Brigitte Fontaine et Jacques Higelin, ah ouais. Et auparavant Guy Béard, Michel Buller, Joe Dassin, Lily Croix et Caterina Valente.
Mais vous êtes la mémoire de la musique française, Patrick. Et alors, Cohen.
J'ai un peu cherché aussi.
Patrick, j'attends quand même le chanteur qui mettra coronavirus dans sa chanson.
Alors, il y en a une. Ouais. C'est passé ce matin au journal de 8h d'Europe 1. Il y a eu une petite chanson, comment
parodique,
dire...
Non,
non, non, non, c'était une chanson qui venait des Antilles, je crois,
ah bon,
à vérifier.
Voilà.
Oh, ça doit bien sonner, ça.
Oui, c'était une sorte de zouk.
Le zouk du coronavirus. Merci, Patrick Cohen, pour ce beau voyage musical à travers la grippe et Patrick Cohen remportera-t-il l'équipée sauvage? Oh, il le mérite! Il le mérite, mon patou. Mes réponses, juste avant 18h.
Europe 1.
Patrick, que voyez-vous à votre droite?
Une vieille dame qui a besoin d'argent.
Non, la divine Eva Rock, notre spécialiste média.
Non.
Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? La question que vous allez bientôt vous poser.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Je suis très vexé de ne pas réussir à dire Rebel, Rebel. Bien, on dirait que je dis Babybel.
Oui,
ça,
c'est
ça
vrai.
Ça ne fonctionne pas, il y a un problème.
Vous le dire,
c'est l'heure du goûter. Hein.
Ouais. Je reconnais, mon Patrick. Vous écoutez l'équipe sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue avec cet après-midi Maître Emmanuel Pierrat qui publie La justice pour les nuls aux éditions Feur. Une émission consacrée donc à la justice qui s'inscrit dans une semaine spéciale Robert Badinter que vous retrouvez en ce moment tous les jours chez notre confrère Christophe Ondelat. Europe 1, plus que jamais, premier sur le droit, comme on vous l'annonçait hier à l'antenne.
Cette semaine exceptionnelle consacrée à l'abolition de la peine de mort et au procès de Roger Badinter, eh bien, vous pouvez... Robert Badinter.
Oui, c'est mieux. Maître Pierrat, quelques petites questions comme ça aux débeautés sur ce livre, La justice pour les nuls. On critique souvent notre système judiciaire, mais au XVIIe siècle, l'éventail des peines donnait le tournis.
Oh, ah oui.
J'ai souligné, page 27, tout ce qu'il y avait. Le pilori, le plongeon dans la corbeille, l'amende honorable. C'est quoi l'amende honorable? Le blâme ou encore la cour sur l'âne. Mais c'est, on avait vraiment plein d'imagination à l'époque.
On avait beaucoup d'imagination, surtout il n'y avait pas de débat contradictoire, on n'apportait pas des pièces à l'accusé, on ne savait pas de quoi il était accusé, il n'avait pas droit à un avocat, donc c'était un système parfait. Ça coûtait moins cher. Hein.
La justice
était moins lente.
Hein. Mathieu, lisez la suite pour les couples adultérins.
Pourquoi vous regardez comme ça?
Pour
la puissance, il y avait une chose qui était particulière, il y avait le congrès. Si vous étiez accusé d'être impuissant par votre femme, qu'elle voulait divorcer, c'était la seule façon de briser le mariage, de dire que le mariage n'avait pas été consommé. Alors l'homme était convoqué en place publique et il devait s'accoupler avec sa femme devant le congrès, c'est-à-dire 40 personnes en tout, qui les entouraient et qui les regardaient. Autant vous dire que aucun garçon n'était capable, on va dire, d'avoir, à part le grand exhibitionniste éventuel tendu qui pouvait passer par là. Donc on était divorcés, en tout cas on voyait son mariage pour impuissance virile automatiquement annulé. Voilà, j'aime beaucoup ces systèmes très rapides de justice qui nous libèrent des avocats, de la procédure, de l'état de droit, vous voyez.
C'était bien plus simple, en effet. Emmanuel Pierre, est-ce que vous avez déjà été conseillé sur une série ou un film? Il y a tellement de films aujourd'hui sur la justice.
Oui, j'en ai fait plusieurs, mais je demandais à ne pas être crédité.
Ah, pourquoi?
Parce qu'il y avait des situations dans lesquelles il y a des situations où le scénario éventuellement s'accommode d'invraisemblance.
Et vous ne voulez pas
questionner ça? Je ne veux pas qu'on dise que j'ai validé un truc qui ne ressemble à rien. Pour les besoins du scénario, je comprends. Pour le besoin de l'intrigue, à moment, voilà. Mais c'est comme quand je conseille les séries télé comme avocat, là, pour le coup, et que je dis attention, on va avoir des emmerdements avec la Ligue de prévention sur les violences routières. Donc le cambrioleur part en moto avec un casque, parce que sinon. Et le flic met sa ceinture à 180 à l'heure pour faire une course-poursuite, parce qu'il prend le temps de mettre sa ceinture, sinon on est emmerdé. C'est un peu invraisemblable parfois. Mais c'est la loi. Donc là, je dis, mettez pas mon nom, parce que ça a l'air un peu grotesque.
Alors, le saviez-vous, Maître Pierrat, selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd tous désormais 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint ou sa conjointe pour savoir ce qu'on va bien regarder sur Netflix ou MyCanal ou n'importe quelle autre plateforme à laquelle on est abonné. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock et sa rubrique 17 minutes de gagné. Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Nouvelle série Teenager sur Netflix. Alors, Teenager, parce qu'elle décrit les affres de l'adolescence, la quête identitaire qui anime les filles et les garçons de cet âge. Ça s'appelle I'm Not Okay With This et ça raconte l'histoire de Sydney.
Salut, je m'appelle Sydney. Je suis une fille blanche de 17 ans, sans intérêt. En gros, j'ai rien de spécial, quoi. Et je suis OK pour ça.
Alors c'est une jeune fille, effectivement, aux allures de garçon manqué. Elle vient de perdre son père, elle vit avec sa mère et son petit frère. La sociabilité, c'est pas franchement son truc. Elle a une meilleure amie. Elle a aussi Stan, qui est son voisin, et un peu plus encore que son voisin. Alors classique, me direz-vous. Sauf que Sid, elle va se découvrir aussi des pouvoirs télékinétiques. Vous voyez ce que ça veut dire ? Elle peut faire bouger avec son esprit les objets, entre autres.
Allez, c'est surnaturel ?
Eh bien voilà, on récapitule. En fait, c'est une série sur l'adolescence qui est mêlée à un univers qui est digne de Stephen King. Et ça marche. C'est très, très réussi, notamment grâce aux jeunes acteurs, à commencer par Sophia Lillis dans le rôle principal. 7 épisodes de 23 minutes qui suffisent à nous rendre accro aux différents personnages. Il y a une seule saison pour l'instant, mais je pense que Netflix va continuer. C'est vraiment très, très bien. I'm not okay with this sur Netflix.
À regarder en VO, évidemment.
À regarder en VO. Mais vous savez, les plateformes, elles produisent aussi des contenus à oublier et à oublier très, très vite. Je me suis infligé un nouveau programme, une télé-réalité intitulé Love Island.
Mais ça existe sur... encore, la télé-réalité ?
Oui, et c'est sur Amazon Prime Video, ce qui me semble improbable quand vous avez la capacité et le financement pour faire des bons produits.
Bah,
pourquoi aller faire de la télé-réalité ? Eh bien, j'espère que ça ne va pas marcher. 5 filles en robe très très courte. 5 garçons.
Patrick est client.
5 garçons tout en muscles, presque. Tous célibataires dans une villa de rêve en Afrique du Sud. Mais pour pimenter un peu les choses, il y a une 6e jeune femme qui est prête à mettre la pagaille dans tous les couples qui se formeraient éventuellement.
Vous
voyez ? Non, pas moi. Non, pas du tout. Le tout présenté par Nabila.
Non.
Voilà.
On dirait un sketch que vous racontez.
Ouais, le vide, le néant. Source inépuisable alors, pour les futurs bêtisiers, notamment grâce à un florilège de fautes de français. Et le Haut Conseil à l'égalité épingle dans un rapport qui a été remis hier à Marlène Schiappa la représentation caricaturale des femmes, notamment à la télé. Et ben, ils ne vont pas être déçus. Ça s'appelle Love Island et ça ne pas regarder sur Amazon Prime Video.
Merci Eva. C'était 17 minutes de gagner.
Europe 1.
L'Arche de Noé en vrai. Ou plutôt, une version végétale de l'Arche de Noé contenant des dizaines de milliers de semences pour sauvegarder le patrimoine écologique de notre planète. C'est le projet fou de scientifiques dans l'Arctique et c'est le sujet de Ken Le Gall. Va nous proposer dans quelques instants un sujet auquel, je le sens, croit beaucoup notre invité Emmanuel Pierrat.
Il y croit, mais il est bien le seul.
Oh non, bah, c'est gentil, restons sport.
h 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Se cultiver gaiement sans non plus aller jusqu'à se démettre un neurone, tel est l'objectif de l'équipe est sauvage. Car vous connaissez l'adage Eva, mieux vaut une tête bien faite
que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie.
Non, c'est pas ça la citation.
Aujourd'hui,
en compagnie de Maître Pierrat qui publie La justice pour les nuls aux éditions First, on continue de décrypter notre système judiciaire. Mais question d'actualité, Maître, on parlait tout à l'heure des Césars. L'autre affaire qui a excité peut-être un peu trop d'ailleurs les médias dernièrement, c'est l'affaire Griveaux. À la question « Comment gérer un scandale ?», vous répondiez « Ne jamais essayer de l'étouffer et le transformer en œuvre d'art ». Est-ce que vous rediriez la même chose à l'aune de ce qui est arrivé à l'affaire Griveaux, vu la défense du principal accusé ?
On ne peut pas dire que tout le monde s'en soit sorti de façon glorieuse, oui, dans cette affaire et dans la défense. Mais ceci dit, moi, alors, j'ai un cas un peu à part. J'aimais bien Piotr Pawlenski comme artiste avant.
Ah merde.
Donc, oui. Alors, je suis un peu au changeur, évidemment. Je suis seul, un peu seul dans cette position, mais c'est quelqu'un dont je suis le travail, parce qu'aux côtés des Femen contre le KGB, en Russie, il y avait des œuvres d'art intéressantes. Là, c'est juste consternant. Voilà.
Oui,
donc,
c'est...
Et tout est consternant, de A à Z. Je ne vais rien dire de mal contre Juan Branco, parce qu'officiellement, on est au même barreau.
Ah oui, donc vous ne direz rien.
Donc voilà, hein, j'ai une sorte de devoir de réserve déontologique.
Mais sur ce qu'a fait, sur la décision de Benjamin Griveaux de se retirer de la campagne...
Il est marié à une avocate, donc je ne dis rien non plus.
Alors, Maître Pierrat, on continue de feuilleter l'actualité et votre livre, La justice pour les nuls. Mais si d'aventure, quelqu'un devait écrire un jour Le journalisme pour les nuls, c'est elle. Face à vous, notre ultime concurrente du jour, actuellement en tête du championnat des journalistes européens, Anne Le Gall est une pro qui connaît ses dossiers sur le bout des ongles, avec une prédilection pour le pôle Nord, zone géographique qui n'a aucun secret pour elle, comme elle nous l'a maintes fois prouvé.
Parce que maintenant, et surtout au pôle Nord. Parce que,
oui, si. Surtout. Alors, ce soir, vous nous parlez, j'espère de manière un peu plus claire, d'un projet fou dans l'Arctique.
Voilà, je vais articuler. Je vais vous parler d'un immense congélateur pour graines, effectivement basé en Arctique. Il faut l'imaginer, un boom. Un tunnel où il fait moins 18 degrés en permanence. C'est un tunnel enfoui sous la montagne au Spitzberg, donc à 1300 km du pôle Nord. Et cette arche de Noé végétale a été inaugurée en 2008. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours, il y a eu réception dans ce bâtiment de 60 000 nouvelles semences venues du monde entier, donc qui vont être conservées pour les générations futures. Parmi ces semences, on trouve par exemple des graines de courge ou de maïs offertes par des Indiens Cherokee, puisque ce sont des plantes qu'ils aimeraient préserver parce qu'elles ont une valeur sacrée. On trouve aussi 27 semences végétales offertes par le prince Charles, des primes vertes, des orchidées, des fleurs qu'il a collectées notamment dans son jardin de campagne. Il y a aussi des cultures vivrières, du blé, du riz, un vieux pommier sauvage qu'on trouve en Europe et qu'on aimerait préserver. Et ce grenier mondial des semences donc contient aujourd'hui plus d'un million d'espèces. Il pourrait à terme en contenir jusqu'à 4,5 millions. Donc ce sont des petites graines dans des tubes à essai, dans des cartons et dans des caissons étanches, des caissons de couleur sur des étagères. Tout ça sous un bâtiment en fait quasiment invisible. On voit juste la porte d'entrée.
Alors c'est quoi ? C'est du survivalisme végétal ? C'est-à-dire que si jamais tout s'arrête, on va pouvoir replanter ces graines un jour et repartir ?
Alors c'est l'objectif. Alors soit on les replante, mais on ne sait pas combien de temps va durer le pouvoir de germination. Soit on conserve uniquement le patrimoine génétique végétal. En fait, ça vient en soutien des banques génétiques qui existent un petit peu partout dans le monde. Il y en a 1700. Effectivement, l'objectif, c'est de faire face au réchauffement climatique, à la baisse de la biodiversité, voire à certains dégâts causés par des conflits. Il y a eu récemment utilisation de cette banque dans le bon sens, puisqu'il y a des chercheurs syriens qui ont demandé à sortir certaines graines de ce frigo, de cette arche de Noé végétale, pour faire repousser une espèce qui avait disparu par la destruction de la banque génétique de la ville d'Alep. Donc voilà, quand on pense à ce que disaient des experts réunis ce week-end à Rome pour préparer la COP sur la biodiversité qui aura lieu en octobre, il y a aujourd'hui 1 million d'espèces végétales et animales qui sont en voie d'extinction, en danger de disparition. Donc l'idée de cette arche végétale, c'est vraiment de travailler pour les générations futures. Et les graines donc, continuent d'appartenir à ceux qui les déposent, aux États, aux associations. Oui. Ce qui se pose, c'est la question de la solidité de la structure. Elle est enfouie dans le permafrost, donc tout est gelé. Mais en 2016, il y a eu des infiltrations dans l'une des salles, puisque évidemment, le réchauffement climatique n'épargne pas l'Arctique. Mmh. Il est même deux fois plus rapide en Arctique. Donc se pose la question de la durée de ce projet, mais le gouvernement norvégien a investi d'ailleurs 20 millions d'euros dans ce projet.
Emmanuel Perret, est-ce que le droit de l'environnement est en train de gagner du terrain ? Est-ce que vous avez des dossiers sur le droit de l'environnement ? Est-ce que vous sentez que ça monte ?
Il y en a partout, heureusement. Heureusement que c'est une question qui préoccupe le monde entier, la construction, tout un tas de choses. Moi qui fais de la propriété intellectuelle, je m'intéresse beaucoup au fait que des tribus ou les peuples autochtones restent propriétaires des semences. Mmh. Parce qu'il y a eu des grandes OPA par des groupes internationaux d'agroalimentaires qui ont volé des semences de blé, de riz, qui se les ont appropriées, les ont déposées ensuite, interdisant à des populations
d'utiliser
leurs propres semences. Donc on a des famines en Inde qui ont été liées, ou en Afrique, qui ont été liées aux semenciers qui avaient privatisé des cultures traditionnelles. Donc je trouve très louable, cette initiative, cette façon. Il faut absolument sauver les semences, sauver les vrais propriétaires, pas uniquement les semences pour les donner demain matin à un industriel, et puis essayer de lutter contre pour sauver cette arche de Noé. Voilà, j'y suis très 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 sensible. Moi j'ai été, dans une vie précédente, je ne suis plus candidat municipal, donc le CSA ne nous rattrapera pas, mais j'ai été élu, et notamment avec Europe Écologie Les Verts, etc. C'est parce que c'était une question qui me semblait importante, extrêmement capitale, et c'était il y a 15 ans.
Ça sent bon les points pour Anne Le Gall. Merci Anne Le Gall. Patrick, une réaction fair play aussi, jeu d'Anne.
Ouais, bon, bah voilà.
Merci. Je vous connais par cœur, petits auditeurs. Je vous vois rentrant chez vous, la mine réjouie, garant la punto devant la maison et réalisant sur le perron que vous avez complètement oublié de faire les courses. Heureusement, Delice in Extremis, votre recette de dernière minute arrive juste après un autre moment clé de l'émission, mon interview de l'invité. Interview toujours extrêmement bien ficelée, comme avait pu le constater, émerveillé mon mentor Patrick Cohen la dernière fois face à Imani. Une seule corde manque à votre arc, une comédie musicale. Vous qui adoriez les comédies musicales quand vous étiez petite.
C'est pas vrai. Ça me gonfle un peu. J'aime pas trop la comédie musicale. Non, non.
Mais vous avez des projets musicaux.
J'ai des projets musicaux, mais pas du tout de comédie musicale.
Qu'est-ce qu'il y a, Patrick ?
Pourquoi vous riez, Patrick ?
Ben non, parce que vous insistez.
Emmanuel Pierre, on est d'accord que petit, vous rêvez de devenir astronaute. Ah merde, Calandre a encore raté.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
L'équipée sauvage entre dans sa dernière ligne droite. Nous saurons bientôt qui sera élu chroniqueur du jour. Quelqu'un peut-il battre Patrick Cohen ?
Nous verrons.
Mais l'équipée sauvage, c'est aussi l'occasion d'apprendre à mieux connaître un invité, découvrir ce qui se cache derrière l'image publique d'une personnalité. Comme hier, par exemple, avec Philippe Manœuvre. Très très rock'n'roll à l'antenne, un petit peu moins hors antenne.
On est là pour le rock'n'roll, kids.
Est-ce que je peux avoir un peu d'eau chaude surmontée de quelqu'un qui serait dans le coup de l'assistana?
On l'embrasse, Philippe. Aujourd'hui, c'est Maître Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris, qui nous fait l'honneur de nous accompagner. Ensemble, on a parcouru votre livre, La justice pour les nuls. Désormais, on est relativement prêt à affronter le système judiciaire en cas de pépin. Quels sont pour vous les plus grands procès de l'histoire? Parce qu'il y a une partie là-dessus, ouais, historique, que moi j'adore les parties historiques dans les livres, même sur la justice. Les plus grands procès pour vous, qui resteront?
Je sais pas, Anne Le Gall nous parlait de l'Arche de Noé. Moi, je démarre avec le jugement de Salomon, pour faire les 10 grands procès, en ramenant jusqu'à l'affaire du sang contaminé pour des très grands procès contemporains. Donc, c'est un très grand procès. Mais l'affaire Callas, défendue ensuite par Voltaire. Je suis conservateur du musée du Barreau, où nous avons le procès de Marie-Antoinette, le procès du rôle de Louis XVI. Et j'ose dire, on a le procès de J'accuse, évidemment, d'Émile Zola, et puis de Dreyfus, qui est quand même le procès le plus incroyable et le plus important à apprendre. Les 16 années du procès Dreyfus, la haine, l'antisémitisme, la division de la France, c'est la chose qui devrait être enseignée obligatoirement à l'école, avec un minimum de sens civique, de la présomption d'innocence et 2-3 valeurs fondamentales. Voilà, je peux embrayer longtemps plutôt que de vous parler de tous les procès, en restant uniquement sur cette histoire. J'accuse, la défense, les intellectuels, la haine, la division, des choses qui me semblent fondamentales en 2020 à enseigner à nos enfants.
Il y a aussi un chapitre sur les erreurs judiciaires, les grandes erreurs judiciaires.
Après, j'adore les faits divers, et donc j'ai fait Landru, j'ai parlé du docteur Petiot, je me suis fait plaisir. Mais quand on dit, chez un avocat, quand on dit c'est un beau dossier, ça veut dire
c'est
généralement
un truc
très gore. Non, très très gore et très sanguignolant. C'est comme le chirurgien qui dit ah, c'est une belle tumeur, vous voyez, généralement.
Oui, c'est ça, ça l'excite, quoi.
Voilà. Mais donc nous, on dit, j'ai mis des très beaux dossiers, c'est-à-dire des trucs de serial killer, des découpeuses, Violette Nozière, les parricides, des infanticides, enfin des choses sympathiques qui font que les clients sont aimables à voir.
Une question que se posent souvent les béotiens comme moi, est-ce qu'un avocat doit accepter de défendre n'importe qui? Le pire tueur en série, tout le monde a droit à une défense, ça c'est vrai,
tout
mais
monde vous, a droit à une
en tant qu'avocat, c'est votre cabinet, vous acceptez? Si le dossier est intéressant, comme vous dites, vous acceptez de défendre les pires crapules.
J'ai qu'une seule limite personnelle. Il s'avère que j'ai été désigné par un client quand j'étais un très jeune avocat, qui était un type du cinéma, qui avait tiré avec un fusil sur des jeunes issus de familles maghrébines. Et je me vois en train à la barre, en train de commencer à mal plaider, parce que ce type me faisait tellement horreur que j'avais envie qu'il en prenne plein la gueule. Les idées racistes ont pris le dessus. Ouais. C'est-à-dire mon antiracisme naturel a pris le dessus sur l'avocat que je suis. Et je suis sorti de cette audience en me disant... Plus jamais tu n'acceptes ce type de dossier parce que tu deviens mauvais et tu ne rends pas, non pas service, mais tu ne fais pas ce pour quoi tu as prêté serment, c'est-à-dire essayer de plaider pour quelqu'un. Et donc depuis, je refuse tout ce qu'est l'extrême droite, les négationnistes, les racistes, etc. Je peux défendre le pire violeur, un serial killer, etc. Parce que j'arrive à faire cette armure. On a une robe d'avocat. La robe, elle sert à ça. Elle sert à enlever cela le soir et à redevenir soi-même humain et à quitter éventuellement la part de sombre que nous avons quand nous défendons un tueur ou quand nous sommes des affaires abominables.
Ça vient d'où la robe d'avocat? Je me pose la question.
C'est une robe de curé, cher ami. Le droit était canon jusque sous l'Ancien Régime. Et donc, c'est la soutane, bien sûr. Il y a 33 petits boutons pour fermer la robe, c'est-à-dire les 33, c'est l'âge du Christ. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça, moi, qui m'amusent. Quand vous allez à l'ancien palais de justice, île de la Cité à Paris, où il y a la Sainte-Chapelle et le palais de justice, beaucoup de gens se trompent. Il y a des loulous qui arrivent et qui attendent à la Sainte-Chapelle d'être jugés en comparution immédiate parce qu'ils croient que ça ressemble à un tribunal. Il y a des touristes japonais qui sont dans la première chambre de la cour. Il y a des vitraux qui pensent qu'ils admirent les fastes du catholicisme et du trésor de Saint-Louis. Vous voyez, donc c'est quand même très, très religieux, tout ça. Dernier point, pardon, sur les salles d'audience comme ça, c'est un vocabulaire opaque. Je vous donne juste un mot qu'on utilise beaucoup en français, que moi j'aime beaucoup, qui raconte comment la justice se passait et pourquoi les avocats avaient des robes de curé. Dans une salle d'audience, il y avait une partie où se tenait le public qu'on appelait le carreau, parce qu'il y avait des petits carreaux par terre. Et la partie dans laquelle les avocats, les juges, les greffiers, les procureurs se tenaient avec des robes de curé, ça s'appelait le parquet parce qu'il y avait un beau parquet. Maintenant, ça désigne le procureur. Et en français est restée l'expression selon laquelle rester sur le carreau, se tenir à carreau, c'est être dans la partie qui n'a pas le droit à la parole. Et je trouve très beau ces mots qui sont restés et de connaître leur histoire pour mieux comprendre ce qu'est la dramaturgie toute religieuse d'une salle d'audience qui, sincèrement, ressemble à une église, à un temple protestant ou à une synagogue, comme vous voudrez.
Eh bien, on a la réincarnation de Maître Capello en plus d'être un grand avocat avec nous aujourd'hui. Quel après-midi nous passons.
Quelle comparaison.
Maître Pierre, oui, c'est vrai que c'est tout à fait ce que j'ai trouvé.
Avocat à la radio.
Maître Capello qui n'était pas avocat. Il usurpait son titre.
Il usurpait. Et d'ailleurs, nous allons lui intenter un procès posthume. Maître Pierre, je vous présente maintenant un de vos futurs clients. Les accusations qui le viseront seront nombreuses. Plagiat.
La tristitude, c'est quand ta copine te dit qu'elle n'aime pas le lard.
Tentative d'attentat musical.
Et je mange la yoli.
Accusé Pouls, levez-vous, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Le bulot maillot, j'adore ça.
Oh, je connais mon client, il dit vrai, monsieur le président. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour, non, vous n'aurez pas toute la vérité, ça je vous le garantis.
C'est l'homme qui fait tourner les mayonnaises en chantant, non? Je me suis dit qu'il y avait cette réputation qui courait.
Olivier, vous êtes notre expert en gastronomie de crise. Vous êtes là pour nous aider quand il ne reste pas grand-chose dans le frigo. Et ce soir, mettons qu'il reste par exemple un avocat.
Bah oui, il reste un avocat, mais il va falloir un tout petit peu plus que ça quand même pour la recette. Alors c'est vrai que vous parliez tout à l'heure, maître, de défendre des causes difficiles. Celle de l'avocat est une cause en ce moment un petit peu compliquée. Je ne sais pas si vous prendriez le dossier, parce que côté, l'avocat est très bon, il est bon pour la santé, il est bon au goût. Mais d'un autre côté, il est accusé d'enrichir les cartels de la drogue au Mexique, contribuer à la déforestation de la forêt amazonienne, de pomper les nappes phréatiques dans le sud de l'Espagne. Est-ce que c'est un client pour vous?
L'avocat défendrait-il l'avocat?
Ah, c'est des discussions que j'ai eues très longtemps avec mes enfants, que ça a beaucoup fait rire quand même d'être avocat, etc. Et puis, à force de faire des cours quand même sur ce qu'est l'avocat, ce qu'est l'avocature, ce qu'est la défense, un jour leur mère m'appelle, j'étais en voyage, elle me dit « Tu fais beaucoup de cours sur la justice là, à nos filles en ce moment ?» Je lui dis « Oui, ça m'arrive quand même de leur expliquer ce que c'est, etc. » Elle me dit « Ah, je comprends mieux parce que Mathéa, notre fille aînée, m'a dit « Ah, tu peux pas me punir, t'es pas juge. »
Donc,
je le mot à l'avocat, on est passé sur l'acquisition des principes essentiels de ce qu'est l'état de droit. Ça me semblait pas mal. Voilà, c'était une façon de botter en touche sur cette blague un peu foireuse.
Alors, mon Pouls, après votre cache investigation sur l'avocat, est-ce que vous avez une petite recette pour nos papilles?
Oui, j'ai une recette très facile et de saison, une fois encore délicieuse. C'est un millefeuille d'avocat céleri rave avec une vinaigrette au miel. C'est fait en deux temps, trois mouvements.
Attends, un millefeuille, c'est pas fait en deux temps, trois mouvements. Un
mais
millefeuille,
si,
c'est compliqué.
Écoutez-le, écoutez-le.
Bon, d'accord, j'écoute.
Mais bien sûr que si, vous allez donc prendre un joli avocat, vous allez simplement l'éplucher et en tailler de très 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 fines tranches. Vous allez prendre un céleri rave, le céleri boule, vous allez l'éplucher et également en couper de très 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 fines tranches. Vous allez superposer les tranches de l'un de l'autre, voilà, un coup l'avocat, un coup le céleri, un coup l'avocat, un coup le céleri, dans un petit emporte-pièce pour que ça fasse joli. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, vous essayez de faire un joli rond. Et puis vous bricolez votre vinaigrette au miel. Alors ça, c'est jus de citron, un peu d'huile, deux noisettes et puis deux belles cuillères de miel. Vous mixez bien tout ça de manière à l'émulsionner, à avoir quelque chose qui soit parfaitement bien intégré. Sel, poivre, une petite pincée de piment d'Espelette si vous en trouvez dans votre placard. Et vous allez ensuite recouvrir votre millefeuille avec cette vinaigrette qui est à la fois un petit peu sucrée, qui est tonique avec le jus de citron. Et vous allez voir que le jeu de texture entre l'avocat qui est très moelleux et le croquant du céleri rave, c'est vraiment intéressant. Et franchement, il n'y en a pas pour plus de 10 minutes.
10 minutes pour faire tout ce que vous
mais
avez dit là. Mais vous avez mis 10 minutes à le dire déjà.
Mais non,
Olivier.
Mais non,
il y a 8 ingrédients. Hein, voilà. C'est facile, à 8 ingrédients. Moi, je sais faire un œuf, c'est tout. Hein. Un œuf du beurre.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Olivier Pouls. On vous retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Bisous, bisous Olivier.
Europe 1.
L'équipée sauvage touche à sa fin. Le verdict ne va plus tarder. Deux questions aujourd'hui. Qui sera sacré chroniqueur du jour? Et surtout, notre invité, l'avocat Maître Pierrat, acceptera-t-il de défendre Patrick Cohen, un client compliqué?
Recherché dans tout le pays pour vol, incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile et concubinage avec une jument.
Donc ça se plaît, hein, comme on dit. Hein.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Douce est la fête, cruel son dénouement. Monsieur le Président, Arnaud Lagardère, Madame la Procureure Roch, Messieurs les jurés, l'heure est venue de rendre un verdict. Qui sera élu chroniqueur du jour? Maître Pierrat, la parole est à la défense. Chacun de nos journalistes a 10 secondes pour plaider sa cause. Mathieu Charrier, pourquoi Emmanuel Pierrat devrait-il voter pour vous?
Parce que je crois que nous sommes relativement d'accord sur les Césars et que nous avons pu exposer des faits
qui allait à l'encontre des idées toutes conçues sur ce qui s'est passé vendredi. Là. Et que dans ce cadre-là, j'attends le soutien.
C'est une autre forme de bien-pensance.
Emmanuel Dutheil, pourquoi voter pour
Parce
vous
Parce qu'il faut voter contre la bien-pensance de Mathieu Charrier. Et donc, même si ça doit être par dépit total, je mérite quelques points.
Il tombe tout. Patrick Cohen, pourquoi voterait-on pour vous aujourd'hui?
Parce que j'ai fait la seule chronique que vous pourrez siffloter en souriant sur votre lit de douleur quand vous serez terrassé par le virus.
Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous?
Parce que je plaide la cause des plantes vertes qui sont peut-être l'avenir de l'homme.
Alors ça, elle
ne sifflote pas. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Eh bien, c'est l'amant des Césars qui a intéressé nos auditeurs. Voilà, qui
c'est
accorde
la polémique
deux points
du moment.
À Mathieu.
Ouais. Deux points. Merci, pour Mathieu Charrier qui rebondit un peu au classement.
Ah, ben là, c'est une remontada.
Une remonte. On n'ira pas jusque-là.
J'avais promis de gifler le prochain qui disait remontada.
Oui, ben,
je n'en peux plus.
Venez. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Patrick Cohen pour sa chronique éminemment originale et festive sur le coronavirus. Il fallait quand même oser et y penser. Mais vous le savez, ici, c'est l'invité qui a le dernier mot. Maître Emmanuel Pierrard, qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Alors, moi, j'ai tendance à être plutôt conciliant en ce moment parce que j'ai des cas difficiles. Donc Anne Le Gall, qui n'a pas encore reçu de prime, avec laquelle je me sentais très en phase, mérite largement, par ses plaidoiries convaincantes, d'être la chroniqueuse du jour.
Oh, Anne Le Gall,
merci. Anne Le Gall,
toujours en tête du classement. Alors que ce pauvre Dutheil, lui, végète dans les bas.
Mais il a les souris, quand même, oui. même là, même quand il a perdu. Donc il peut
encore jouer.
Il peut recommencer.
Voilà.
Effectivement. Il est député, Dutheil.
Mesdames et messieurs, c'est donc Anne Le Gall qui remporte la 125e Bravo, journée ouais. de l'équipée sauvage. On remercie notre invité, Maître Emmanuel Pierrat. Ne restez plus passif devant notre système judiciaire. Apprenez à le connaître. On ne sait jamais, vous y serez peut-être confronté un jour. La justice pour les nuls est disponible aux éditions First. Merci, Maître, d'avoir passé l'après-midi avec nous. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Roch, Anne Le Gall, Emmanuel Dutheil, Patrick Cohen, Mathieu Charrier et Olivier Pouls. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipée sauvage. Merci à tous. On vous retrouve demain dès 16h et vous recevrez l'écrivaine Aurélie Valogne. À demain. Salut Mathieu.
Europe 1, 18h-20h. Votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.